France Inter.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
Je suis de cette génération qui partait réviser ses examens enfermés dans une bibliothèque parce que le coup de « je regarde un 7 et je travaille après », ça ne marche jamais et ça tombe toujours sur les matchs en 5-7. Je me souviens parfaitement bien de Noah qui tombe dans les bras de son père à sa victoire à Roland-Garros. J'ai hurlé devant Chang qui fait tomber Lendl en 8e de finale en 89 avec un service à la cuillère à 4-3 au 5e set. Mon frère était Connors, j'étais plutôt McEnroe, à moins que ce soit le contraire. Je voulais le même survêt en tout cas que celui de Borg. Et j'ai eu la chance, quelques années plus tard, de voir, depuis les tribunes de presse, la dernière victoire de Steffi Graf à Roland-Garros devant Martina Hingis. Le central était en fusion, il y avait une personne qui était pour Martina Hingis, pauvrette, c'était sa mère. Et en plus, c'était l'année de l'histoire d'amour avec Agassi, est-ce qu'on peut faire une plus belle mythologie? Et en préparant cette émission, justement, je me suis demandé, est-ce qu'elles existent encore, ces mythologies-là, dans le grand tennis? Bien sûr, le central sera debout pour l'hommage à Nadal, tout comme on a pleuré quand Federer est parti. Mais est-ce que j'ai encore le courage, par exemple, de tenir 4 heures un samedi après-midi devant un match interminable? Et vous? Vous savez ce que c'est la moyenne d'âge dans les tribunes? Vous la connaissez? 62 ans. Est-ce que vous sortez le crucifix et les gousses d'ail si je vous demande si vous êtes tenté par le padel? Les cours poussent comme des champignons, c'est ludique, c'est rapide, on s'amuse très vite, c'est un peu ce que le street basket à 3 est au basket traditionnel. Est-ce que c'est pas aussi un signe qu'il faudrait peut-être que le tennis traditionnel se dépoussière un peu? Ou est-ce que vous rêvez toujours, vous, d'un grand 5-7 interminable sous un soleil de plomb? Eh bien, c'est ce qu'on va voir, c'est le téléphone sonne, soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Bonsoir Dominique, vous êtes la première. Bonsoir. Et vous êtes la bienvenue. Bonsoir.
Bonsoir.
On vous écoute Dominique.
Alors moi c'était en 82, la finale Villas-Vilander, une finale qui a commencé à 15h mais qui a fini je crois à 20h passé, qui a été très 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 longue. Et j'ai regardé toute la finale alors que le lendemain matin, je devais partir pour passer une épreuve de concours de la faculté de médecine.
Voilà. Et vous l'avez eu ou pas?
Oui, je l'ai eu. Oui.
Ah bah très bien. Ah bah bravo. Vraiment bravo. Et alors du coup, vous êtes encore capable, puisque c'est la question que je posais, on jouera à ça jusqu'à 20h, vous êtes encore capable de vous faire un très gros 5-7 qui dure des heures, Dominique, ou pas?
Oui, oui. Okay. Si vraiment s'il y a du jeu, mais je trouve... Enfin, s'il y a du jeu, mais souvent ils tapent fort et ils jouent pas. Enfin, je sais pas comment l'expliquer.
Eh bien, si, très bien. On verra si on est passé à l'heure des grands cogneurs, effectivement.
Voilà, et qu'il y a, voilà c'est ça. Ouais.
Disons peut-être un peu moins d'élégance pour discuter voilà, ensemble okay. Autour de cette table. Dominique, merci beaucoup pour votre appel. Il y a Muriel Magellan, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes écrivaine, scénariste, réalisatrice. Vous avez écrit L'éloge du tennis chez Rivage. Les gens ignorent qu'ils vous connaissent, mais ils vous connaissent. C'est vous qui avez écrit Changer le sens des rivières chez Julliard, qui est devenu un film qui s'appelle Marlène et son juge. C'était avec Louane et avec Michel Blanc. Vous avez aussi co-créé comme réalisatrice Les petits meurtres d'Agatha Christie, ce qui permet aux gens de vous situer. C'est pour ça que c'est intéressant d'ailleurs de vous voir dans un registre du tennis, dans un style d'ailleurs très littéraire. Il y a Sophie Amiac qui est avec nous également. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes. Mais très bien, merci beaucoup d'être avec nous, Sophie. Vous êtes joueuse de tennis. Vous avez été quart de finaliste à l'Open d'Australie. C'était à peu près dans les années Dominique, c'était en 84. Désormais, vous êtes consultante télé pour une chaîne américaine. C'est ça qui nous intéresse parce que vous jouez à un jeu qui s'appelle le pickleball, que vous allez nous expliquer parce que moi, je ne sais pas comment ça marche. Aux États-Unis, ça marche super bien. Et à vos côtés, il y a bien sûr Fabrice Abgral. Bonsoir Fabrice.
Bonsoir.
Le monsieur tennis de France Inter, évidemment, c'est vous. Déjà à Roland-Garros, avec Sophie Amiac, Fabrice. Muriel Magellan, ce que nous dit Dominique, moi je l'ai retrouvé dans votre livre, en fait. Cette idée qui... Alors, est-ce que c'est l'idée qu'on s'en fait, parce qu'on a vieilli, en fait, et qu'on se souvient de nos 20 ans, mais est-ce qu'il y a eu un tennis élégant qui est devenu un tennis de cogneur? Et du coup, c'est moins festif, c'est moins agréable à regarder aujourd'hui. Vous avez un peu ce sentiment-là ou pas?
Je suis plus mitigée là-dessus. Je pense qu'effectivement, on est passé à un tennis de cogneur, après McEnroe, après l'ère McEnroe. Mm-hmm. Il y a quand même eu Edberg, il y a quand même eu Federer. Donc on ne peut pas faire l'autruche et ne pas voir que les airs qui ont suivi ont généré de magnifiques athlètes, esthètes aussi, et qui sont beaux à voir. Pour autant, ça, c'est vrai que ça s'est perfectionné, le tennis, que ça s'est professionnalisé, que maintenant Djokovic pèse ses grains de sel. Donc il y a une rigueur qui est arrivé, mais pour autant, la fantaisie est toujours là.
Vous croyez que la fantaisie est toujours là,
oui.
Voilà. Bon, on a perdu Nastase, mais on a quand même un peu de fantaisie. Puisqu'on va poser la question dans cette émission de savoir s'il faut y mettre du piment, en fait, dans le tennis, peut-être dans les règles, et essayer de voir s'il faut le dépoussiérer. Je voudrais très rapidement qu'on parle à Patrick Mouratoglou qui est avec nous. Bonsoir.
Ça.
On vous présente à peine Patrick Mouratoglou, vous avez été l'entraîneur de Serena Williams, évidemment, désormais celui de Naomi Osaka qui a été numéro un mondial quand même, vous avez une académie de tennis qui porte votre nom. On parlera aussi de votre livre parce que ça a un lien avec ce qu'on va évoquer. On parle donc d'un tennis qui a peut-être besoin d'être rajeuni. Vous avez créé l'épreuve qu'on appelle l'Ultimate Tennis Showdown, un seul service, des cartons, ça dure 8 minutes, c'est hyper dynamique, ça ressemble un peu au basket dans cet ordre d'idée. Il y a même des interviews au milieu du match, il y a des points qui sont rapides. Est-ce que ça veut dire qu'il fallait, sinon rajeunir le tennis, en tout cas lui donner une autre forme, qui allait lui donner un coup de jeune, Patrick Mouratoglou ?
Bah, ça dépend à qui on s'adresse, en fait. Si on s'adresse à la fanbase traditionnelle du tennis, qui est aujourd'hui celle qui suit le tennis, qui a 61 ans d'âge moyen, non, il ne faut surtout rien changer. J'en fais partie, hein, donc il n'y a aucune condescendance de ma part. J'aime le tennis comme il est. En revanche, si on veut aller chercher des fans plus jeunes et recréer une fanbase pour l'avenir, le format actuel, qui est un format qui est extrêmement ancien et qui ne correspond plus du tout au code de consommation d'aujourd'hui, ne marche pas, on le sait. Je veux dire, toutes les études l'ont montré. Donc, pour ces gens-là, il faut leur proposer un tennis qui réponde au code d'aujourd'hui, et c'est ce que j'ai fait avec UTS.
C'est marrant parce que ça ressemble.
Que j'ai créé cette ligue parallèle.
Ça ressemble à la NBA en fait, l'UTS, et ça ressemble peut-être aussi au fond à des joueurs de foot professionnels qui s'essayent au foot à 5 en petite salle parce que ça a ce petit côté dynamique.
Oui, bah c'est beaucoup plus court, comme vous l'avez dit. Mm-hmm. C'est beaucoup plus dynamique, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins de temps mort. Le tennis, c'est entre 80 et 90% de temps mort pendant un match. Le temps pendant lequel la balle est en jeu est extrêmement court. Et donc, dans le monde d'aujourd'hui, on sait très bien que les gens qui ont moins de 40 ans, ils ne peuvent pas rester longtemps sur un format qui est très très lent. C'est très peu authentique, c'est très peu immersif. Enfin, ça correspond pas du tout au code. Donc, ce qui est pas grave du tout, parce qu'encore une fois, les gens de ma génération, ça leur convient très bien. On est habitué à ça. On aime le tennis comme il est. On veut pas le changer. Mais pour l'avenir, le changement est radical.
Est-ce que ça veut dire que quand on va chercher un Ultimate Tennis Showdown ou quand on joue au padel, à la fin, en vieillissant, on retourne vers le tennis dit traditionnel, Patrick Mouratoglou, à votre avis ou pas ? C'est encore à démontrer, j'imagine.
On ne sait pas encore, parce qu'en fait, la génération, aujourd'hui, elle a moins de 40 ans. Enfin, on se reposera la question dans 20 ans, mais franchement, j'en doute. C'est une génération qui est marquée par des modes de consommation qui vont avoir utilisé pendant 40 ans, 50 ans, 60 ans. Je ne pense pas qu'on puisse revenir en arrière, je ne pense pas que ça se produira, mais ça, encore une fois, c'est une supposition.
Patrick
ce ne sont pas des suppositions, c'est la réalité.
Je vous remercie d'avoir fait un petit tour chez nous. Je sais que vous devez partir, mais je ne veux pas vous lâcher sans dire un petit mot de ce livre que vous sortez chez Albin Michel qui s'appelle « Votre potentiel est infini » et qui parle vraiment de mental, qui parle de tout ce qui compte en fait dans le mental, pas seulement dans le tennis, d'ailleurs dans le sport. Moi, j'ai trouvé très intéressant que ce soit Florent Manaudou, donc il y a un nageur, qui fasse la préface de ce livre et qui dise jusqu'à quel point il faut apporter ce regard nouveau sur ce que les champions peuvent ressentir et comment les aider à le maîtriser. Pas seulement les champions, d'ailleurs.
Non, en fait, je me suis appuyé sur mes expériences personnelles et celles que j'ai eues avec tous les joueurs avec lesquels j'ai travaillé. J'ai travaillé, comme vous l'avez dit, avec des très grands champions comme Serena ou Simona Halep ou Naomi Osaka, qui sont toutes des vainqueurs de Grand Chelem. Bon, Serena, c'est la plus grande de tous les temps. Et j'ai constaté que leur mode de pensée, leur mode de fonctionnement mental était très différent des autres. Mm-hmm. Alors évidemment, l'objet du livre, c'est pas que tout le monde devienne Serena Williams, il n'y en a eu qu'une dans l'histoire, donc
c'est
compliqué. Exactement. Par contre, il y a beaucoup de choses à prendre pour aider les gens dans leur vie quotidienne à atteindre leurs objectifs, à progresser, à, pourquoi pas vivre la vie dont ils rêvent. Mais pour ça, il faut comprendre la manière dont on doit... les processus mentaux des champions, on peut en prendre beaucoup de choses pour les gens, pour tous les gens comme vous et moi.
Eh bien écoutez, apprenons de ce processus mental grâce à votre potentiel est infini chez Albin Michel. Je sais qu'il faut vous lâcher. Je vous remercie de ce petit passage, Patrick Mouratoglou. Je voudrais que vous réagissiez, Sophie Amiak, à ce que disait Patrick Mouratoglou en disant qu'on le veuille ou non, les codes ont changé, les gens ne peuvent pas rester aussi longtemps qu'ils le faisaient devant le match. En tout cas, la jeune génération, pour qu'il y ait un renouvellement, ne le fait pas. Et si on veut d'autres retombées, il faut modifier des choses et il faut offrir autre chose. Qu'est-ce que vous dites de ces remarques-là, Sophie Amiac ?
Alors, je suis tout à fait d'accord avec lui. D'abord, premièrement, il faut savoir que pour moi, c'est un jeune homme, Patrick Mouratoglou, parce que je suis de l'âge de la génération des 61-62 ans. Donc.
Mm-hmm. Mais Sophie a joué contre Chris Evert et Martina Navratilova, voilà. Quand même.
Mais c'est pas grave, Sophie, vous pouvez rester.
Oui. C'est gentil. Mais moi, je pense que, en fait, l'UTS, j'adore. J'ai aussi commenté l'UTS et j'ai adoré ce format. Je trouve que c'est un format fabuleux, justement, pour cette génération qui a besoin d'avoir des choses qui sont plus rapides, plus excitantes. Pas que le tennis soit pas excitant, mais je suis aussi, je suis pas d'accord dans le sens où je pense qu'on peut aussi changer des choses au tennis. Par exemple, oui, complètement. Je pense qu'on peut faire aussi et avoir qu'un service sur les tournois masculins. Surtout parce que le service a une importance tellement autre que sur le circuit féminin, parce qu'ils ont quand même un potentiel de taper des balles à 230 km/h que malheureusement nous ne pouvons pas atteindre parce que nous n'avons pas aussi de force sur le haut du corps pour permettre d'aller danser. Donc pour nous, le tennis féminin est encore plus difficile parce que ces balles, elles reviennent au service. Mmh. On a bûché beaucoup plus pour gagner des points. Mais chez les hommes, moi, je pense qu'un service, ce sera encore plus excitant dans le sens
une
première balle, j'ai bien compris.
C'est la première qui serait utilisée en première ou seconde.
Et
ou
du coup,
première...
est-ce que vous gardez le let's parce que c'est aussi un grand débat, Sophie Amiac?
Alors, le débat du let's, pour moi, c'est les gens pensent que le let's va accélérer le jeu. Et si vous comptez tous les lettres et que vous faites en fait le quotient de combien de temps les lettres prennent, si c'est 3 minutes, c'est énorme. Est-ce que 3 minutes, c'est vraiment ce qui va changer un match? Mm-hmm. Non. Pour moi, non. Maintenant, j'aimerais pas non plus aussi avoir un lettre en finale d'un grand chelem, par exemple, qui gagne le match sur un service. Alors, je comprends, on en a parlé un petit peu avec Fabrice, qui a son opinion, qui n'est pas la même.
J'allais me tourner vers vous, Fabrice, rapidement, avant d'aller au standard. Est-ce que, quand on vous dit un seul service, est-ce que vous avez les poils qui se hérissent?
Un seul service, pourquoi pas, il faudrait essayer. Bon, pour l'instant, c'est pas le cas. Le no-let, ce qu'on appelle le no-let, pourquoi pas? On peut gagner très bien un tournoi comme Roland-Garros en ayant une balle qui touche le filet et qui termine sa course dans le terrain adverse. Dans l'échange. Alors pourquoi pas au service? C'est tout à fait possible et c'est tout à fait envisageable. Mmh. Après, évidemment, c'est le relanceur qui doit faire évidemment attention à se mettre plus loin sur le court ou se rapprocher de sa ligne de fond. C'est aussi tactique. Mais moi, je suis plutôt favorable au no-let.
Eh ben, écoutez, je poserai la question aussi à Muriel Magellan, mais je voudrais d'abord qu'on écoute Gilda qui est à Lorient. Bonsoir Gilda.
Bonsoir.
On vous écoute.
Alors moi je suis de la génération dont parlait Patrick Mouratoglou, et ce débat, surtout sur l'accélération, disant que c'est trop long, les matchs et tout ça, ça fait 10 ans, 15 ans que j'entends ce débat, et je crois qu'en fait le tennis, c'est un combat de gladiateurs, et il n'y a pas de coup de sifflet final. Donc de toute façon on pourra toujours, c'est pas comme un match de football ou un match de basket ou je ne sais quoi, où il y a un temps qui a parti, c'est le premier qui gagne tant de points, ça peut se retourner, et les matchs de 5 heures, les matchs de 6 heures qui sont, et il y en aura encore des matchs Alcaraz, Sinner qui vont faire peut-être 6 heures, et c'est des grands frissons, et je suis pas convaincu que ça intéresse pas les 25-30 ans. Je pense que la pub, effectivement, les annonceurs, ils ont envie que ça aille vite, parce que il faut pas que ça dure 5 heures, parce qu'il y a moins de pub.
Ouais, c'est juste une question de gros sous en fait, Gilda, votre avis.
Mais l'émotion qu'il y a dans ces matchs interminables, faut pas arrêter ça, alors que d'autres sports se créent, le paddle, je sais pas quoi, très bien, super, mais le tennis, faut que ça reste avec,
C'est marrant parce que vous aussi, Gilda, vous dites paddle, moi j'arrête pas de dire paddle, alors que c'est le paddle, le paddle, c'est paddle, ce qui... Ouais, mais moi aussi, mais bienvenue au club, faisons un groupe, parce que moi aussi, à chaque fois, j'ai l'impression qu'on va faire du bateau sur un cours de tennis, c'est terrible. Muriel Magellan, en vous lisant, et c'est vrai que j'avais oublié ce moment-là, quand on est passé en fait des élégants au cogneur, pour dire les choses de manière un peu caricaturale, il y a même eu cette idée qui est venue en disant on n'a qu'à grossir les balles.
Absolument.
Comme ça va ralentir le jeu.
C'est Yon Thiariac qui qui à ce moment-là se posait la question, disait ça y est, c'est la fin du tennis romantique, du tennis élégant, il faut trouver une idée, et il proposait qu'on augmente les balles de 15%, je crois. Donc c'est une question, effectivement, je suis assez d'accord avec l'auditeur Gilda, qui se pose régulièrement, et souvent elle se pose à la fin d'une ère. Et c'est vrai que là, on est à la fin de l'ère du Big Three, on n'a plus...
À la fin de l'ère Nadal, Federer, Djokovic.
Voilà, ouais. Nadal, Federer, Djokovic, qui était mythique, qui proposait des combats avec des tempéraments extrêmement
mais
différents.
Mais qui ont un peu tué le match, en fait, parce qu'ils n'étaient que trois, en fait.
Oui, non, il y avait quand même Wawrinka, on espérait, on pouvait espérer, on avait nous nos mousquetaires, il y avait moyen de rêver quand même un hold-up, il n'y en a pas eu beaucoup, mais il y en a eu de Murray, etc. Et c'est vrai que c'est des grands traits de caractère, c'est des grands tempéraments. Et là, on est un peu en deuil de cette ère-là. Mais une autre va s'ouvrir. Et je crois que c'est dans ces moments-là qu'on s'agite tous pour essayer de trouver comment transformer ce sport.
Après, c'est marrant parce qu'on parle de l'élégance, mais je pense que ça vient de la naissance aussi de ce sport-là, qui était un sport de noble. Enfin, vous racontez un peu l'histoire. Il y a eu même, au tout début, à l'époque du jeu de paume, les ouvriers n'avaient pas le droit de jouer parce qu'ils avaient autre chose à faire. Il fallait bien qu'ils bossent.
Voilà. Il y a eu une interdiction parce que c'était addictif. Moi, je dis que je suis addict à ce sport.
Exactement.
Mais c'était addictif. Aussi bien les étudiants aux États-Unis au début du 20e aussi ont été interdits.
Il n'y avait pas le droit de jouer pendant les examens. Donc, il y avait cette espèce de côté. Et donc, ça allait avec. Et puis, avec les tenues blanches, etc. Mais au fond, est-ce que ce n'est pas là qu'on se fourvoie, en fait? Parce que l'important, que ce soit élégant ou pas, pardon, c'est de gagner. Quoi.
Absolument. Donc, et j'entendais, je crois que c'est Corentin Moutet qui a dit récemment, peut-être qu'il ne faut pas changer les règles du tennis, mais simplement laisser les gens manger du pop-corn dans les tribunes, parce qu'on est trop accro à ce silence sacré.
Alors ça, c'est intéressant. Tiens, Fabrice Abgral, vous qui commentez, est-ce qu'on vous a déjà demandé de commenter moins fort? Parce qu'effectivement, il faut garder le silence de cathédrale.
Oui, c'est vrai, notamment à Bercy, parce qu'on est au milieu du public, et c'est vrai que souvent, les spectateurs se retournent pour dire chut, chut, chut. Oui, vraiment, c'est compliqué aussi de commenter sans s'emballer, surtout quand il y a un Français, ou quand il y a Nadal, quand il y a Federer, quand il y a Novak Djokovic, mais c'est vrai qu'on m'a souvent demandé de parler un petit peu moins fort, oui, c'est vrai, mais c'est vrai qu'il y a un silence de cathédrale quand on est sur un court de tennis, mais sur l'UTS, par exemple, sur l'UTS, eh bien, les spectateurs ont le droit de parler, ils ont le droit de boire, ils ont le droit de s'exprimer pendant les échanges même, pas entre les échanges, ils ont le droit de bouger, enfin voilà, c'est un autre spectacle l'UTS que propose Patrick Mouratoglou, c'est vrai.
Et c'est ça qui est intéressant, en fait, Sophie Amiac, c'est que c'est du spectacle. C'est-à-dire que le spectacle n'est pas seulement dans ce qu'on voit sur le court, le spectacle il est aussi dans l'entre-deux, il est dans les interviews au milieu. Est-ce que c'est ça qui manque ou au contraire, si on se met à casser ce côté très cathédral, on a tué le tennis en fait?
Moi, je ne pense pas qu'on va tuer le tennis. Je pense que le tennis, aujourd'hui, n'a pas changé depuis... La seule chose qu'ils ont rajouté, vraiment, c'est un tie-break. À l'époque,
on allait au bout.
Ils ont fait en 76, c'était le tie-break.
Oui.
Il n'y a pas eu de changement de règles et de format. Moi, j'ai un format qui pourrait être très sympathique et qui pourrait être très excitant pendant les grands...
Elle veut tout changer, Sophie Amiac.
Non, moi, je ne veux pas tout changer, je veux améliorer. C'est pas pareil, c'est pas du tout pareil. C'est comme quand les joueuses et les joueurs changent de grippe, ils disent on va changer notre grippe. Je dis non, vous allez vous améliorer en faisant ça.
Allez-y, Sophie Amiac, balle neuve.
Donc moi je pense, déjà, il n'y a pas d'échauffement. Déjà, c'est l'échauffement de 5 minutes.
Ah oui.
Les joueurs rentrent sur un court, allez, tirage au sort, tu sers.
C'est ce qui se passe au Next Gen.
Okay. C'est exactement ça. Voilà. Okay. Ça y est, déjà, on ne perd pas ce temps qui ne sert à rien parce qu'ils se sont déjà échauffés, ils font leur échauffement physique avant. Deuxièmement, tout ce qui est lancé, il n'y a qu'un lancé au tennis, sauf s'il y a des conditions de vent qui font qu'on on autorise de reprendre la balle et de relancer la balle. Okay. Tac, vous lancez la balle, ça fait partie de votre coup, on y va. Une autre chose dans les grands chelems, moi je trouve pour les femmes et les hommes, bon, mis à part le premier service, c'est d'avoir qu'un service pour les hommes, de faire en sorte que si vous perdez un set, et les deux premiers sets par exemple, en ayant gagné moins de 4 jeux, d'accord ? C'est-à-dire si vous perdez 6-1, 6-3, vous serrez la main de votre adversaire et vous leur dites merci, vous n'étiez pas compétitif ce jour-là, vous sortez du cours, on vous reverra dans un autre tournoi.
Et merci, au revoir.
Non mais par contre, si vous gagnez 4 jeux ou plus, vous allez en 5-7. Enfin, il faut en gagner 3, quoi. Voilà. Ouais. Et de cette manière, vous aurez femmes et hommes qui joueront de la même manière, parce que la situation de dire que les prix ne devraient pas être égaux, j'en ai entendu tellement depuis des années où je joue et je commente, ça me casse la tête. Donc, on n'a qu'à faire les choses à égalité. Et de ce fait, le public va savoir que si vous ne gagnez pas ces 4 jeux à 3 partout, je pense qu'il va y avoir un engouement qui est un peu différent, si vous voulez que le joueur et la joueuse continuent à jouer. Et ça va mettre de l'ambiance. De ne pas faire aussi les jeux d'avantage. 40A, on joue le point décisif.
Ce qu'on appelle
mais
le NOAD.
Mais non, mais ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est que la télé, ce qui fait qu'on a des joueurs de tennis aujourd'hui.
Ah, donc voilà. Il faut s'adapter à la télé, c'est ça que vous dites.
Mais c'est important. Ah oui, bah oui, parce que c'est là où bah, c'est comme ça. On est aujourd'hui. Il y a une demande de prize money, de prix qui sont tellement énormes. Après, donc il faut aller plus vite.
Après,
alors comment faire plus vite, mais en ayant des matchs qui sont intéressants, en ayant des formules qui servent.
Fabienne, si je peux me permettre, il y a des choses qui ont été faites quand même. Il y a eu un changement de règlement progressif. Alors c'est pas de la révolution, c'est une évolution. Le super tie break à 10 points dans le 5e et dernier set adopté par les 4 grands chelems. Ça, c'est une chose, parce qu'on se souvient tous, évidemment, et vous la première sûrement, de ce fameux John Isner, Nicolas Mahut à Wimbledon en 2010.
Bah, vous y étiez, vous, non ?
J'y étais, le match a duré 3 jours, 11 heures et 3 minutes, avec un 5e set qui s'est terminé sur le score incroyable de basketball, 70-68. Il faut s'en souvenir. Donc là, ils ont pris des mesures, ils ont dit, bon, là, c'est fini, on peut plus, maintenant, c'est super tie-break dans le 5e set. 25 secondes de récupération entre les points, l'arbitrage électronique avec suspension des juges de ligne, comme ça évite les discussions, et puis le coaching aussi qui est plutôt sympa avec des micros jamais situés très loin pour entendre ce que se disent les joueurs et les entraîneurs. Ouais. Donc ils essayent un petit peu de dynamiser quand même.
Alors là, mais effectivement, Sophie Amiac nous a fait la révolution copernicienne, Muriel Magellan, rapidement avant de revenir au standard. Alors même moi qui ai du mal désormais avec les matchs en 5-7, je reconnais, je me dis, mais alors si on n'a plus droit à la remontada quand on est mené 4-0, c'est la fin des
récords. Ah non, vous avez le droit.
Je comprends la proposition. Elle est plus sculptée que des sets en 4 jeux, par exemple. Moi, j'y suis hostile.
Mais ça existe.
Sans doute.
Ça
existe. En fait, ce qui me semble, c'est qu'il faut quand même. Oui, je sais. Je joue aussi en amateur. Il m'arrive.
Pour faire une parenthèse, simplement, je vous redonne la parole. Ouais, parce que il y a un tournoi laboratoire. C'est le Masters Next Gen, c'est-à-dire c'est les moins de 21 ans. Là, le cours n'a pas de couloir. Les matchs se jouent au meilleur des 5-7, mais attention, ce sont en effet des sets de 4 jeux avec tie-break à 3 jeux partout. Il y a le système du NOAD, c'est-à-dire qu'à 40 égalités derrière, c'est le point décisif. Donc il y a quand même... L'ATP tente des choses quand même.
Vous qui avez plus de 21 ans, vous avez quand même joué des matchs en 4 jeux.
Oui, quand même. Mais c'est vrai que je crois qu'il y a dans la longueur quand même du tennis et dans sa théâtralité, c'est aussi ce qui nous accroche. Alors, j'entends que la moyenne serait de 60 ans. Ça me surprend parce que quand moi je vais regarder les matchs, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de jeunes. Mon fils a 25 ans et je vois bien que dans quelle catégorie il accepte la lenteur parce que la dramaturgie, elle vient aussi de cette lenteur. Donc trouver des aménagements, je suis d'accord avec Sophie, peut-être quelques subtilités, mais peut-être faire confiance dans le fait que un roman, ça peut faire 500 pages et cartonner, un film, ça peut faire 3 heures et cartonner. Il y a des histoires de Suleiman qui plaisent au public et on est surpris. Je pense qu'on anticipe une inquiétude liée à notre observation du monde, mais peut-être qu'il ne faut pas, peut-être qu'il faut s'entêter.
Et conserver effectivement la dramaturgie, comme vous dites. Retour au standard avec Alexis qui nous y attend. Bonsoir Alexis, il paraît que vous êtes arrêté en voiture, bravo.
Oui, je me suis arrêté.
On vous a obligé, non ?
Oui, non, oui, mais c'était plus safe.
Ouais,
merci pour la qualité de vos émissions. Et je voulais juste témoigner que jusqu'à mes 25 ans, j'ai joué pendant très longtemps au tennis. Et puis voilà, le cours de la vie a fait que j'ai laissé tomber. J'ai pratiqué d'autres sports de raquette comme le squash depuis à peu près 6 mois le pickleball. Et très honnêtement, pour rien au monde, je ne reviendrai en arrière sur le tennis.
Ah ouais.
Ah, on entend Sophie
même qui fait ah. Alors le pickleball, il va falloir nous expliquer rapidement, Sophie, parce que autant le padel, on en a, c'est en train de pousser comme des champignons en France, autant le pickleball, vous qui vivez aux États-Unis, vous en voyez partout, nous pas encore vraiment. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on ne sait pas encore si c'est la fédération de tennis ou la fédération de badminton qui va le prendre sous son aile. C'est dire comme oui. On est dans quelque chose d'un peu hybride.
Oui, parce que ça débute, donc c'est sûr qu'il y a une délégation qui va être prise, l'une ou l'autre. Mais en attendant, le pickleball, pour moi... En fait, pour moi, tous les sports sont des très bons sports. J'aime tous les sports. Il n'y a pas de bagarre, il n'y a pas de bataille. Maintenant, le pickleball est le seul sport au monde, parce que j'en ai pas encore trouvé, où n'importe quel être humain qui ait fait du sport, qui n'ait pas fait du sport, qui ait joué au tennis, rentre sur le court. Dans les 5 minutes qui suivent, ils vont s'éclater, rigoler et avoir du succès. Oui, c'est un sport qui est plus facile et plus accessible, j'en suis tout à fait consciente.
À 2 contre 2, hein.
À 2 contre 2, oui, en faisant du double, parce que vous pouvez jouer en simple aussi, là c'est beaucoup. C'est un peu plus compliqué, c'est un petit peu plus que comme le tennis. Mais le pickleball, c'est en fait du badminton mélangé avec du ping-pong et du tennis. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que vous avez des jeunes et des enfants qui jouent sur des cours de pickleball aux États-Unis et qui vont après au tennis. L'un ne va pas sans l'autre. C'est un, pour moi, bouger, c'est vivre et survivre. Qu'on ait 10 ans, 2 ans, 4 ans, 70, 80, mais quel est le problème ? Et surtout, ce que j'aime, c'est le fait qu'il y a, une c'est très ludique. Ça va très vite de s'amuser. Et c'est très, très rare.
Et ça se joue sur un cours de la taille d'un terrain de badminton.
Exactement.
Avec un cours de tennis, on construit 4 cours de pickleball.
Et avec des raquettes de quelle taille ? Ça ressemble à des raquettes de padel, du coup ?
Elles sont un petit peu plus petites et beaucoup plus légères.
Et la balle ?
La balle est une balle perforée qui est en plastique,
Comme
qui
le paddle,
est très légère aussi.
Un paddle, c'est des balles de tennis.
Ah
oui, et raquettes beaucoup plus lourdes. Mais là, on aura là, les 4 derniers jours de Roland-Garros, de jeudi, vendredi, samedi, dimanche, des finales, demi-finales et finales. On sera tous sur le court, je crois que c'est 4 ou 5, avec un court de paddle au fond, un court de pickleball devant. Venez et essayez. Et je vais vous dire, vous allez adorer les deux sports. Alors maintenant, les deux sports, un est beaucoup plus, pour moi, difficile. Hein. Pour jouer au paddle, il faut quand même comprendre déjà rien que les vitres et les rebonds. Moi, j'ai un problème de dos, donc je ne peux pas faire de torsion. Donc le padel, c'est impossible pour moi. Mais il y a des gens qui s'éclatent au padel. Super.
Après, 14 millions.
Alors
14
voilà,
millions de
pratiquants.
Ouais. 14 millions de pratiquants aux États-Unis. Il y a 5 ans, ils en étaient que 4. De pickleball.
Ouais. Alors que nous, on en a combien ?
7 000.
Ben voilà, 7 000. En revanche, on a des terrains de padel qui poussent de partout. Il y en a un devant la maison de la radio, hein, quand vous passez devant.
C'est vrai.
Ça vient de l'Espagne. J'ai trouvé en préparant cette émission, c'est marrant que Zidane avait investi là-dedans, exactement comme il a investi dans le football à 5. Donc ça dit quand même des choses. Et alors, Muriel Magellan, ce que disait Sophia Miak, c'est que c'est moins traumatisant. Et c'est vrai que le tennis, si on veut le pratiquer longtemps, même si on sort effectivement des grands tournois, est un sport qui peut être traumatisant pour le corps, en fait. Hein.
Bien sûr, oui. Ben, moi, je continue à le pratiquer malgré mon âge qui commence à avancer. D'ailleurs, je me mets en scène cette question dans le livre.
Vous voit jouer d'ailleurs, mais vous êtes toujours 15-2, vous finissez le livre, vous êtes à 15-2, vous êtes toujours 15-2 ?
Je suis toujours 15-2.
Voilà, vous tenez encore la rampe. Hein.
Mon petit classement. Mais je ne sais plus quelle était la question sur le... le paddle, c'est ça.
L'idée, c'était des sports traumatisants. En fait.
Moi, j'ai la sensation, j'ai été justement prendre mon prix de plus 55, et j'ai vu des plus 60, des plus 65, plus 70 qui allaient chercher leur prix des départementales. J'ai trouvé ça extrêmement émouvant. C'est vrai que c'est un sport traumatisant qui nous demande de nous adapter au fait que il y a des choses qu'on peut plus faire. On peut plus aller sur un contre-pied aussi facilement, mais je crois que tant que... Moi, j'aime bien, je sais que c'est... Soler s'est arrêté de jouer au tennis quand il a vu...
Qu'il ne pouvait plus.
Il a vu quelqu'un...
Il a vu un très vieux et c'était pathétique.
Et il a trouvé ça pathétique. Ouais. Et moi, je trouve ça magnifique. Donc, vous voyez, c'est une question... Mais je suis sûre qu'on s'amuse beaucoup au padel et au pickleball. Je pense qu'il faut effectivement ouvrir et que... C'est simplement que moi, mon éloge, il est sur le tennis.
Mais
c'est
absolument.
Que mon addiction, elle est au tennis.
Une vraie belle addiction. Juste avant de vous entendre, Thomas, je sais que vous nous attendez à Strasbourg. Je vais soumettre cette remarque de Christelle à votre sagacité qui ne nécessite pas de réponse. Je déteste le tennis parce que, enfant, mon dentiste était fan de Roland Garros. La télé était allumée dans son cabinet. Entre deux manips, il regardait l'écran. Je ne peux plus voir du tennis sans me rappeler la douleur des piqûres. Voilà, je pose ça là. Bonsoir Thomas.
Oui, bonsoir.
Soyez le bienvenu,
merci,
Thomas.
Merci beaucoup, merci pour votre émission, merci de me donner la parole. Voilà, bon, je joue un petit peu au tennis, voilà, mon petit niveau. Simplement, je trouvais, puisqu'on parlait un peu peut-être de l'intérêt du spectacle, moi, ce que je regrette, voilà, et peut-être il faudrait qu'on en fasse un petit éloge, mais malheureusement, il est au passé, ça, c'est des volleyeurs. C'est vrai qu'on voit plus beaucoup de volleyeurs, à part peut-être Alcaraz, qui a une belle volée, une belle main. Et c'est vrai que je suis assez étonné par... les joueurs sont impressionnants maintenant physiquement, dans ce qu'ils font, dans le rythme qu'il y a, mais même à des joueurs qui sont dans les 5-10 premiers, ils ont vraiment une volée que je trouve très faible, et je trouve que la volée c'est quand même, c'est l'essence du tennis, c'est la beauté de finir un point à la volée, et moi ça me manque beaucoup, voilà, en tant qu'amateur de tennis.
Merci beaucoup Thomas. Fabrice Abgral, vous qui les voyez souvent et longtemps, c'est vrai que les joueurs sont plus grands, ils sont plus forts, c'est pas les mêmes gabarits non plus. Hein.
Ouais, c'est vrai, ouais. Les volleyeurs, c'est une espèce en voie de disparition, il faut bien le reconnaître. C'est vrai qu'on se souvient de John McEnroe, on se souvient évidemment de Stéphane Edberg. Côté français, Michael Yodra était
Noah
un spécialiste,
aussi, hein,
Nicolas Mahut, Yannick Noah, et c'est vrai que c'était
Martina
Navratilova, c'est vrai, chez les dames. C'est vrai que c'était un tennis très spectaculaire, mais qui ne correspond plus aujourd'hui au tennis pratiqué par ces joueurs qui sont, c'est vrai, extrêmement véloces, extrêmement puissants. Le but du jeu, c'est de laisser justement son adversaire le plus loin derrière la ligne de fond pour pas qu'il monte au filet. Et donc forcément, ces serveurs volleyeurs et ces volleyeurs naturels, eh bien, on ne les voit plus ou quasiment plus. Et c'est vrai que c'est dommage, parce que c'est vrai qu'il y avait des oppositions de style comme Borg-McEnroe, pour citer que Martina Navratilova et Chris Evert, pour ne citer que ces plus grands duels. Et c'est vrai que ces duels là manquent un petit peu, cette opposition manque aujourd'hui au tennis. Mais bon, on se régale quand même, parce que Roger Federer était quand même un excellent volleyeur aussi, hein, il faut pas le négliger. Novak Djokovic aussi est un excellent volleyeur, et l'auditeur le disait aussi, Carlos Alcaraz est un très bon volleyeur avec une très belle main. Donc bon, parfois il y a des position de style, mais c'est vrai qu'il y en a de moins en moins.
Est-ce que Muriel Magellan, parce que, alors après, chacun porte son âge, hein, nous aussi, ouais. Moi aussi, c'était les années 80, mais on se dit que, on se demande s'il y a eu un âge d'or, en fait, des années 80, une époque où on pouvait citer des joueurs de tennis sur les doigts des deux mains, vraiment. Est-ce que c'est vraiment encore le cas aujourd'hui? Est-ce qu'on s'attache au temps? Alors, il y a un camp des pros et des anti-Djoko, d'ailleurs, oui. Je vais vous dénoncer immédiatement, vous êtes totalement dans le camp des anti. Mais est-ce qu'il y a cet attachement? Est-ce que cet attachement est le même? Est-ce que vous diriez qu'il est le même? Ou est-ce qu'il y a eu ce moment, effectivement, de toute la durée des années 80? Et c'est marrant parce que là, en écoutant Fabrice et Sophie, pareil, oui. Citer des joueurs et des joueuses, d'ailleurs, c'est peut-être encore plus compliqué sur les joueuses de pouvoir en citer beaucoup aujourd'hui.
Je crois que c'est tout à fait lié à notre âge, tout simplement. Ouais. On a une nostalgie parce que c'est relié à nos souvenirs, aux examens, vous le disiez,
ouais,
à une époque où on est jeune, on partage ça avec des amis, on partage ça avec la famille. Je pense que moi, j'ai de la mélancolie, mais je suis pas nostalgique.
Ouais, ouais.
Je crois que les jeunes d'aujourd'hui, ceux qui ont assisté à Federer, Nadal, Djokovic, vont dire pareil et vont dire après il n'y a plus de tennis,
ouais,
et ils vont se souvenir de leur jeunesse, et puis il y aura, j'espère, une autre ère. Alors après, sur le format, moi je ne suis pas, je suis romancière, je regarde, hein,
ouais.
je suis, mais sur le format que les gens qui s'occupent de tennis nous proposeront. Mais je crois qu'on gardera toujours cette nostalgie. Si on a des enfants, on se réintéresse au tennis et on voit des tempéraments arriver. Moi, j'adore voir Arthur Fils arriver et espérer pour lui la rivalité Alcaraz-Sinner. J'ai l'impression qu'elle va nous faire vibrer. Voilà.
Si je peux me permettre, je pense qu'on fait partie de la même génération. Donc, je pense aussi qu'on a vu naître aussi le tennis moderne. Et
ouais.
C'est ça aussi. Et grâce à la télévision.
Mm-hmm.
C'est-à-dire qu'avant Borg, Sincèrement, il n'y avait pas de tennis à la télévision, ou très peu. Et puis Borg est arrivé, il a démocratisé tout ça, il a rendu le tennis extrêmement populaire, et puis il a eu cette rivalité avec John McEnroe.
Avec pourtant un tennis chez Borg qui était quand même... Enfin, qui n'était pas très rock'n'roll, hein. C'était pas du tennis festif celui de Borg.
Non, mais, l'importance du tennis de Borg, c'était McEnroe en face. C'était justement cette opposition de style qui ont fait qu'on s'est régalé. Mais il faut savoir que ces oppositions n'existent pas aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de changements. Un, les balles sont différentes. Deux, les joueurs vont beaucoup plus vite et frappent très fort à cause des cordages qu'ils ont. Mmh. Les balles partent beaucoup plus vite. Donc quand vous servez et que vous venez à la volée et que vous frappez une balle derrière la ligne de service, c'est plus pareil. C'est plus même pas une demi-volée. Vous arrivez, vous prenez un boulet dans la figure, vous pouvez pas contrôler une volée et vous faites passer derrière parce que les gars ils sont tellement rapides, vous pouvez pas faire mal avec cette volée. C'est pour ça, l'herbe de Wimbledon a changé, c'est pas la même herbe. Ils ont voulu attirer un petit peu plus les joueurs de fond de court qui ne jouaient jamais et ils en ont fait aujourd'hui un jeu de fond de court. Si vous regardez l'herbe qui est dans quel état elle est, dans les années 80, le fond du court, il y avait de l'herbe. Et maintenant, par contre, au filet, il n'y en avait plus. Ben aujourd'hui, c'est l'inverse. Ouais. Ben voilà, ça vous dit tout.
Il nous reste peu de temps, mais on a du temps pour vous, Jean-Philippe. Bonsoir.
Bonsoir.
On vous écoute.
Gentil, merci. Oui, mais moi, je suis plutôt sur le patrimoine dans mon travail. Alors, je reste toujours un peu nostalgique et je reviens évidemment à ce que j'ai vu et ce qui m'a marqué, c'est-à-dire le petit diamant à l'oreille de Victor Pecci. Vital Gerulaitis qui faisait la fête en discothèque à Paris le soir et qui le matin était impeccable sur le court de tennis. Aussi impeccable la petite jupe de Chris Evert Lloyd et son charme. Le regard un peu figé et le rictus un peu raide de Martina Navratilova. Et puis, le clown triste de Lendl avec son petit polo à carreaux, et puis le gigantisme de Chip Hooper, les services de Roscoe Tanner à 250 km/h, on voyait passer des Ferrari, enfin. Voilà, tout moi, ça je... me...
Alors, ça m'a beaucoup marqué. C'était le tennis à visage humain, en fait. C'était le tennis à visage humain, en fait.
Après, le clown et Lendl, pour moi, c'est un peu Camoulox, mais pourquoi pas.
Il joue au pickleball, Lendl, maintenant.
Il joue au pickleball, Lendl.
Oui, j'ai joué deux tournois avec lui en Amérique.
Et Jack Sock, qui a remporté Bercy, joue maintenant au pickleball. Des professionnels de pickleball.
Rapidement, Muriel Magellan, parce que dans votre livre, vous dites que la coupure pub au moment des joueurs qui tournent, par exemple, c'est terrible, parce que vous adorez ce moment-là. Et on a Nico qui dit, mais pourquoi est-ce qu'on fait autant de pauses entre les jeux? Une pause par 7 serait amplement suffisante, comme au quash ou au badminton.
J'aime aussi regarder, effectivement, Richard Gasquet changer son grip. J'aimais bien avoir Nadal aligner ses bouteilles. Il y a toute une histoire qui se raconte aussi là. Alors peut-être qu'on peut écourter un peu, peut-être qu'il y a des aménagements, mais garder cette mythologie qui est singulière, qui n'appartient qu'à ce sport. C'est un sport de l'intime aussi, le tennis, vraiment, on est soit face à soi, soit face à l'autre, et c'est tout. Donc ça, c'est assez beau à observer.
Les
voilà.
Amis, je vous souhaite un très joyeux Roland-Garros, Sophie et Fabrice, à vous aussi, Muriel Magellan, et je rappelle, Éloge du tennis, c'est publié chez Rivage. Merci à tous, à tout de suite.